Quel chant particulier, hein? Ça peut étonner, hein? De donner autant d'amour et de chanter autant d'amour à un Dieu, à Jésus. C'est vrai que très souvent, la religion ne nous apprend pas cela, hein? Et je dirais que très souvent, même nos attitudes sont même assez à l'opposé de Dieu. Souvent, on rencontre des hommes et des femmes qui, à la place de l'amour, auraient beaucoup de haine à exprimer envers Dieu parce que ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas si Dieu existait, pourquoi alors dans leur vie il y a autant de difficultés, de fardeaux, de soucis. Et ça serait un petit peu tout l'inverse. Mais j'aimerais vous rassurer parce que c'est ce que nous pensions peut-être pour certains avant. La même chose. Nous avions ce même genre de pensée et plusieurs, peut-être même d'entre nous, ont même levé le poing contre Dieu en disant « Mais c'est pas possible, si Dieu existait, mais j'en serais pas là aujourd'hui. » Et Dieu a changé les circonstances. Il a changé les choses, il a changé nos cœurs, il a changé nos vies. Il nous a fait comprendre qui il était vraiment et ce qu'il était capable de faire et d'accomplir dans notre existence. Et là, nous avons vécu une expérience extraordinaire qui a bouleversé, changé notre vie. Nous ne sommes pas rentrés dans des couvents ou des monastères. Ça n'a pas fait de nous des mystiques ou des intégristes, mais ça fait de nous des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui ont découvert ce Dieu vivant et merveilleux. On va continuer un petit peu ce que nous avons vu depuis donc mardi soir. Nous avons commencé cette étude sur les vérités fondamentales de nos croyances. Pourquoi nous croyons? Et qu'est-ce qui fait que nous devons croire en un certain nombre de choses? Et nous avons commencé donc par les Écritures. Nous avons vu ce matin que l'attitude d'un homme, d'une femme, face donc à l'Écriture, à la Bible, la parole de Dieu. Et nous nous sommes arrêtés sur plusieurs points. Nous avons vu que cette parole était une nourriture pour notre âme. Elle était aussi une nourriture solide, mais elle pouvait se limiter au lait. Et puis, elle était aussi comme la pluie qui vient sur nos vies et là commence à nous faire du bien, à restaurer nos cœurs, nos âmes, nous recommuniquer de la vie lorsque nos cœurs sont secs, lorsque notre âme est aride et que nous avons besoin d'être désaltérés. Cette parole est comme cette pluie qui vient nous faire du bien. Et puis, on a vu que c'était une source de foi. Et puis nous étions arrêtés sur le fait qu'elle devait être mise en pratique. Si nous ne faisons que de la lire, ou si nous ne faisons que d'en entendre parler, mais que finalement il n'y a pas ensuite une mise concrète en pratique dans notre vie, eh bien nous nous rendons compte que ça ne sert de rien. On va continuer sur ces images. Je vous ai dit que dans cette mini-étude qu'on est en train de faire, nous allons voir quelles sont les images. Souvent, la Bible, la parole, est comparée à un certain nombre d'images. Alors, on en a pris déjà quelques-unes, et là, on va en prendre une autre. Dans le prochain, c'est l'Épître aux Romains, ou plutôt, on pourrait, oui, commencer par ce texte d'introduction, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Il est dit ceci, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. » Et nous voulons non pas donner nos propres motivations, mais nous voulons simplement prendre l'Écriture pour parler à nos cœurs. Une des images que nous trouvons, c'est le miroir. Et dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 23, il est dit ceci. « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Je pense que vous savez ce que c'est qu'un miroir et vous savez qu'on en a souvent besoin. Bon, c'est vrai, peut-être certains plus que d'autres quand ils se lèvent le matin. Mais c'est vrai que c'est utile, hein. On permet de se regarder, D'ailleurs, on ne voit jamais qui on est vraiment, hein, puisque même quand on se regarde à travers un miroir, c'est pas vraiment nous, puisqu'on voit l'opposé. Donc on est un peu inversé quand même, hein. Mais au moins, ça nous donne une idée de ce qu'on ressemble. Et puis, c'est vrai que c'est important, et la Bible est comme cela. Elle est un miroir. Pourquoi elle est un miroir? Parce qu'elle est un miroir psychologique. Elle est un miroir spirituel. Pourquoi? Parce que elle a pour objectif, quelque part, de refléter l'état de notre cœur, l'état de notre âme. Elle est là, et quand nous la lisons, elle nous reflète parfois ce que nous sommes vraiment, réellement, concrètement. Et c'est pour ça que certains ne supportent pas la Bible, parce qu'elle dit la vérité. Et souvent, Dieu est comme cela, et des hommes et des femmes ont du mal à croire en lui et à s'attacher à lui, parce que Dieu dit toujours la vérité. Et quand il dit que nous avons des qualités, quand il dit que nous avons des talents, quand il dit que l'homme est dans certains domaines capable de faire un certain nombre de choses, il a raison. Mais quand il dit aussi que l'homme est un pécheur et qu'il a besoin d'être sauvé pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu, il a aussi raison. Quand il dit que le cœur de l'homme est tortueux, il a aussi raison. Quand il dit que l'homme est toujours en train de chercher des chemins parallèles pour aller à l'objectif qu'il s'est donné, et toujours prendre des détours au lieu d'aller droit au but, je crois qu'il a aussi raison. Mais quand nous lisons cette parole, on se rend compte que elle reflète. Elle reflète notre vie, mais elle reflète notre monde. Elle reflète ce qui se passe autour de nous. Elle reflète aussi la misère de l'homme et de la femme. Elle reflète toute la souffrance et les difficultés que nous pouvons encourir. Et c'est pour cela un livre très utile, afin de pouvoir regarder et de pouvoir savoir ce que nous sommes vraiment. Elle reflète ce qui est à l'intérieur. Le miroir que nous connaissons reflète ce qui est à l'extérieur, ce qui est d'apparence. Et c'est vrai, des fois c'est important, hein, parce que je me souviens, quand je travaillais au CNIT, à la Défense, à Paris, on avait un bureau, et donc moi je prenais le TGV de Lyon, j'allais là-bas, et puis j'avais des collègues qui travaillaient avec moi, qui eux, simplement, prenaient le métro, le RER, ensuite, vous savez, là-bas à Paris, c'est pas souvent au-dessus, c'est souvent en dessous, hein. Donc il y a plein de métros, il y a plein de... Et ils avaient, pour la plupart, une heure et demie, deux heures. Et puis un jour, je vois un collègue qui travaillait avec moi arriver, et on a entendu des éclats de rire depuis le bas du CNIT. Le CNIT, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est uniquement des tapis roulants, et puis vous avez tout un environnement d'entreprise, de commercial, donc tout est ouvert, il y a simplement des vitres, donc on entend beaucoup de choses, et là on entendait des gens rigoler, on s'est dit tiens, c'est bizarre. Et puis j'ai ce collègue qui entre, et moi je ne le vois pas tout de suite, et quand il entre, il y a des collègues qui le voient, et ils rigolent aussi. J'ai dit c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il a? Et quand je le regarde, il était parti de chez lui, et je le vois, et moi je pouffe de rire. Alors il se demande ce qui se passait, et je dis, mais il n'y a rien qui te gêne? Alors il me dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais t'as pas entendu les gens qui rigolent depuis tout à l'heure? Ben, il me dit, si, mais je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est vrai, il était un peu particulier lui, hein, mais je dis, mais il n'y a rien qui te dérange? Il me dit, non. Je lui dis, depuis le début, t'as vu des gens qui rigolent autour de toi et ça te fait rien. Ben, il me dit, non, mais dis-moi ce que j'ai. Ben, je lui dis, si t'es parti comme ça de chez toi, ça va peut-être te causer un souci, mais t'as un coton-tige dans l'oreille. Et il avait fait tout le trajet avec un coton-tige dans l'oreille. Alors bien sûr, quand il est passé dans les sous-sols, qu'il était toujours en train de courir parce qu'il était toujours en retard, les gens le voyaient et rigolaient. Et ils ne savaient pas s'il l'avait fait exprès ou pas. Mais lui, il l'avait pas fait exprès. Il était un peu farfelu. S'il s'était regardé dans le miroir, certainement qu'il s'en serait rendu compte. Ça nous fait un peu rigoler. Mais parfois, il y a des choses comme ça qui sont mises en exergue dans notre vie. Il y a parfois, au fond de nous-mêmes, intérieurement, parfois même de manière très cachée, des choses que personne ne connaît, personne ne sait, mais qui sont sales, qui sont pas bonnes, qui sont mauvaises. Et qui sont même en train peut-être de détruire notre vie, de nous amener dans une certaine forme de destruction. Et à la limite, personne n'est au courant, si ce n'est nous. Mais quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, dans la Bible, elle nous montre ce que nous sommes vraiment. Et elle montre nos fautes, elle montre nos erreurs, elle montre nos défauts, elle montre tout simplement notre péché, et elle nous amène à comprendre que nous avons besoin d'une véritable solution. Mais on va aller un petit peu plus loin. Elle est un miroir, mais elle est également, la Bible nous dit, une épée. Et il est dit ceci, Hébreux 4, 12, « La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, et elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà une autre image. Elle est un miroir, on se voit dedans, elle reflète ce que nous sommes, mais cette parole, la Bible nous dit ici qu'elle est vivante, elle est efficace, et elle est efficace aujourd'hui encore. Ce n'est pas une parole de religion, ce n'est pas une parole religieuse. Et ici, vous n'êtes pas entré dans une église, on pourrait dire, religieuse, même si ça semble se contredire. Non, vous êtes entré dans un lieu où des hommes et des femmes, tout simplement, ont découvert la foi vivante et vraie. Parce que la Bible est un livre vivant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole que Dieu nous a donnée, nous a communiquée, et celle qu'il proclame encore aujourd'hui, est réelle. Elle est vivante, elle est efficace. C'est-à-dire que si nous avons le courage de nous approcher de Dieu et de dire « Mais voilà, effectivement, quand j'ai regardé dans ce livre, le miroir a reflété qu'il y avait dans ma vie un certain nombre de choses qui peut-être n'allaient pas. J'ai besoin maintenant que non simplement cette parole soit un miroir, mais j'ai besoin aussi qu'elle m'apporte la solution. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans ma vie pour que ces choses puissent disparaître ?» Et la Bible nous dit qu'elle est comme une épée. Elle est vivante, elle est tranchante. Parfois, elle coupe, c'est vrai. Elle pénètre jusqu'à partager. Elle fouille notre cœur. Et elle va même dans les recoins, les endroits que nous n'avions pas permis à quiconque d'entrer. Mais elle vient là pour séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Elle vient là pour nous purifier. La Bible nous dit même, elle nous confond, parce qu'elle est la vérité. Et il y a tout un travail qui se fait à travers la lecture de la Bible, comme nous le disions ce matin, sa méditation, son étude, cette parole est vraiment vivante. On va prendre une autre image encore. Elle est une image, elle est un miroir, elle est aussi cette épée, elle est aussi un feu. Et Jérémie nous dit ceci, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel ?» Parfois dans notre vie, il y a des choses dont on aimerait se séparer. Et on a du mal à s'en séparer. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais souvent, il y en a le 1er janvier, ou en tout cas la veille, ils disent maintenant, c'est fini. Ça, c'est terminé, je ne recommencerai plus. C'est une nouvelle année qui commence, je fais un vœu, et maintenant, je repars pour une année nouvelle. Et le 2 janvier, ou le 3, ou parfois avant, parce que c'est trop fort, parce qu'on est attaché, parce qu'on est comme lié, on est comme prisonnier. La parole est là comme une épée qui vient comme pour couper, trancher. Il y a des choses dont on ne peut pas se séparer, mais Dieu désire qu'on s'en sépare quand même. Et elle est comme un feu, et elle vient, et elle brûle. Elle veut brûler, et elle veut consumer. Mais consumer quoi ? Le mal. Ce qui est en nous, ce qui est mauvais, ce qui nous gêne, ce qui nous dérange. On sait que le feu a la particularité de purifier. Et cette parole, elle est là pour purifier nos vies également. Elle est là pour cicatriser. Je dirais, elle cautérise. Elle ne laisse pas de plaie qui va s'infecter, mais elle va agir au plus profond de notre cœur. Vous savez, à une époque, quand on était blessé ou autre, ils nous mettaient quelque chose de très chaud hein, sur la plaie. Ça faisait pas du bien. Aujourd'hui, on a toutes sortes de produits, mais ils savaient que même si ça brûlait, quelque part, c'était salutaire, parce que ça aurait pu éviter la mort ou une infection à la personne qui avait cette plaie. Et Dieu sait cela. Et parfois, dans notre vie, là où nous passons, ce que nous vivons, les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, sont là aussi pour nous aider. Et elles sont là pour nous amener à la foi. Et elles sont là pour nous amener à croire, à prier et à recevoir vraiment la parole de Dieu dans notre vie. Comprendre que Dieu a donné son Fils et qu'il a marché sur cette terre, qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Cette parole vient, elle brûle nos cœurs, mais elle nous réchauffe. Elle est cette parole qui va nous stimuler également. C'est vrai que parfois, on est un peu difficile. Et on va résister. On va s'opposer. Et on a une autre image de la parole, celle-ci, on l'aime pas vraiment. C'est le marteau. Et il est dit ceci dans le livre de Jérémie, « Ma parole est comme un marteau qui brise le roc. » Alors ça, c'est vrai, ce sont des genres de versets qu'on n'aime pas trop. Ce matin, on parlait de la parole qui était comme une pluie. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres versets encore qui sont assez tendres, assez doux. Mais là, on se rend compte que la parole, elle est comme un marteau, mais on l'a chanté tout à l'heure, je croyais que Dieu était amour. Pourquoi alors a-t-il une parole parfois aussi dure? La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est vrai que cette parole est là aussi pour résister et briser parfois notre orgueil. Et je connais personne qui soit totalement démuni d'orgueil. On a souvent une petite pointe d'orgueil qui est là, mais la parole est là pour briser cet orgueil, cette vanité, notre fierté, notre égoïsme, afin de pouvoir recevoir les véritables valeurs. Et souvent l'homme a un cœur dur, hein. L'homme, même dans des situations critiques ou autres, a un cœur qui est dur, un cœur opposé. On ne cède pas facilement, même vis-à-vis de Dieu. C'est difficile de céder à son amour même, à sa compassion, à sa grâce. Pourtant, c'est tellement salutaire et ça nous ferait tellement de bien. Mais combien, dans ma vie personnelle, pendant des années, j'ai résisté à cela. C'est vrai que quand on entend parler comme cela, quand on entend prêcher, ou quand on entend des hommes et des femmes témoigner, on se dit, mais certainement, eux, depuis tout petit, ils vivent cela. Depuis leur tendre enfance, ils ont été baignés là-dedans. Et certainement qu'aujourd'hui, c'est une sacrée habitude. Et donc, ça fait partie de leur vie. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je sais ce que c'est que de résister à Dieu, mais d'être brisé également comme le roc. Parce que on va résister un temps. On va vouloir conduire et diriger notre vie comme on en a envie. Et c'est vrai que les épreuves, les difficultés sont là. L'orgueil, bien souvent, va rejaillir parce que on va rencontrer parfois des amis, des personnes qui vont dire, mais moi, si j'en suis là aujourd'hui, mais c'est à la force du poignet. Cette expression qui nous fait comprendre que c'est grâce à eux. C'est grâce à leur qualité, c'est grâce à leur persévérance, c'est grâce à leurs efforts qu'ils en sont là aujourd'hui. Et c'est vrai, nous faisons tous des efforts et nous avons tous des efforts à faire dans bien des domaines. Mais est-ce que ces efforts nous apportent vraiment le bonheur? Est-ce que ces efforts nous apportent vraiment la joie? Est-ce que ces efforts nous apportent vraiment la paix, l'amour, la compassion, le respect de l'autre? Et là, on se rend compte que c'est vrai, on a fait beaucoup d'efforts, on a été persévérants, même dans les difficultés, même dans les épreuves. Mais l'orgueil a jailli. Et peut-être même sans s'en rendre compte, on en a écrasé quelques-uns autour de nous. Parce qu'il fallait qu'on passe, parce qu'il fallait qu'on prédomine, parce qu'il fallait que nous, on y arrive. Peu importe de ce qui se pouvait se passer aux autres, l'important, c'était nous. Et ça, c'est la fierté de l'homme. C'est notre orgueil, notre égoïsme, notre égocentrisme qui est là et qui nous empêche finalement de grandir dans cette relation entre Dieu et nous. Or, Dieu résiste à cela. Il résiste à l'orgueil, il résiste à la vanité, il résiste à la fierté, parce qu'il veut nous faire comprendre que pour aller plus loin avec lui, simplement, il nous faut apprendre ce qu'est l'humilité. Et l'humilité, nous en avons besoin. Quand je parle de l'orgueil, il ne faut pas confondre. Je ne parle pas du zèle, de la motivation que nous devons avoir, ou de la détermination que nous devons avoir. Je discutais avec quelqu'un hier soir, lors de ce mariage, et il me disait, mais l'orgueil, c'est pas mauvais, il en faut de l'orgueil. Je dis, mais comment vous définissez l'orgueil? Il me dit, mais regardez une équipe de sport, par exemple, ou un sportif, quel qu'il soit, lorsqu'il perd, on dit souvent, mais il y a comme une pointe d'orgueil qui a rejailli, et puis, de nouveau, il s'est rebattu et il a remporté son match. Je dis, oui, mais ça, c'est pas de l'orgueil. Ça, c'est tout simplement son zèle, sa motivation. Il a été, à un moment donné, un petit peu en bas, en bout de course. Il était peut-être écrasé parce qu'il était en train de se passer, mais de nouveau, il s'est déterminé, il a été persévérant, il a été jusqu'au bout, il a gagné. Mais ça n'a rien à voir avec l'orgueil. L'orgueil, comme on l'explique aux enfants. Mon petit m'a dit, mais c'est quoi l'orgueil? Alors, expliquer l'orgueil à un petit gamin, c'est pas toujours évident. Alors, on lui a dit, c'est tout simple. L'orgueil, c'est quand t'as un tout petit cœur et que t'as pas de place pour les autres. Si t'as un grand cœur, c'est que tu dois pas avoir beaucoup d'orgueil. Mais quand t'as un tout petit cœur et que tu penses qu'à toi, eh bien, l'orgueil, c'est ça. Quand t'es égoïste, quand tu es fier de toi-même et que les autres, tu les mets de côté. On peut le définir comme cela. Et je crois que Dieu voit cela. Mais il dit, je résiste aux orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas avec notre orgueil et notre fierté que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Et il sait que ce n'est pas à cause de cela que nous pourrons un jour entrer dans la gloire avec lui et être sauvés et libérés. Mais il sait que c'est par l'humilité, par le fait d'accepter tout simplement son amour, sa grâce et sa compassion, afin que nous puissions vivre ici-bas déjà véritablement dans la joie, dans la paix et dans le bonheur. Alors il utilise le feu, il utilise parfois le marteau, mais dans le psaume 119, il est dit que les paroles de Dieu sont plus douces que du miel. Que des paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Voyez, c'est pour ça que c'est important de prendre un éventail complet de la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait prendre qu'une partie, comme le font certains, en disant, mais non, la parole de Dieu, c'est un feu. La parole de Dieu, c'est un marteau, il est là pour casser, pour briser. La parole de Dieu, c'est une épée, il n'est là que pour trancher. C'est autoritaire. Mais quand on prend un environnement général de tous ces textes, on voit ici que la parole, elle est douce. Et c'est vrai que parfois, après avoir déchiré, elle adoucit, elle console, elle encourage. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie également. Et c'est l'œuvre de sa parole. Il veut nous encourager, il veut nous consoler, il veut nous faire du bien. Comme je le dis souvent, Dieu n'est pas venu pour nous condamner et nous juger de manière arbitraire. Non, il est venu pour nous montrer quelle était notre situation aujourd'hui. Nous faire comprendre que nous étions des pécheurs et que nous étions perdus si nous n'acceptions pas le plan de salut que Dieu avait mis en place pour chacun d'entre nous. Ce pourquoi ? Parce que justement, quand Dieu avait mis les choses en place dès la création, dès la Genèse, eh bien ensuite le diable a commencé à détourner les choses à son avantage et il a essayé de tout faire pour perdre l'humanité. Et quand Dieu a vu cela, alors il est allé jusqu'au bout de sa création et il est allé jusqu'à même donner ce plan de rachat et de salut, c'est-à-dire donner son Fils Jésus-Christ afin qu'il meure pour chacun d'entre nous et que quiconque croirait en lui serait sauvé pour la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'était le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et quand nous regardons finalement ce que Dieu a voulu faire pour chacun d'entre nous, c'est là où nous réalisons que sa parole, elle est douce, même plus douce que le miel. Quand on dit que Dieu n'a jamais souffert et qu'il ne connaît pas la souffrance, c'est là quelque chose d'absolument faux. Qui serait capable aujourd'hui de donner son fils premier-né pour quelqu'un d'autre? Qui en serait capable? Et Dieu a laissé son fils partir. Il a laissé son fils être jugé faussement. Il a laissé son fils être condamné. Il a laissé son fils recevoir les insultes, les crachats, les coups. Il a laissé son fils être porté sur cette croix. Il a laissé son fils se faire clouer les mains et les pieds. Et il a laissé son fils mourir sur cette croix. Pourquoi a-t-il fait cela ? Non pas parce qu'il n'avait pas d'amour, bien au contraire. D'abord, il a vécu la souffrance de son fils. À un point même où, sur la croix, Jésus dira, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il a accepté par amour cette souffrance-là et un instant d'abandon, parce qu'à ce moment-là, Jésus prenait tous les péchés de l'humanité. Nos péchés, vos erreurs, votre orgueil, votre fierté, votre médisance, vos mensonges, vos adultères, tout cela, Jésus, la Bible nous dit, s'en est chargé afin de nous en et de l'accepter dans notre vie. Et de lui dire, mais j'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin que ma vie soit différente, mais comment faire ? Et Dieu dit, mais accepte tout simplement de croire en ce sacrifice qui a été accompli, c'est vrai, il y a 2000 ans, mais qui est pleinement valable encore aujourd'hui. Ce sacrifice dans lequel simplement il faut que tu mettes ta foi, ta confiance, que tu crois que Jésus est venu, qu'il est mort pour toi, et non simplement il est mort, mais il est ressuscité. Et Dieu le savait. Jésus est passé par la mort, mais parce que lui était pur et sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Et alors, il est ressuscité, il est vivant, raison pour laquelle sa parole est vivante également. Et sa parole, elle est douce. Et la Bible nous dit qu'il est là maintenant, à nos côtés, pour nous éclairer. C'est une des dernières images que nous voyons ensemble. Il est une lampe, il est une lumière. Et le verset nous dit ceci, psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. » Et la Bible nous dit que Jésus, justement, s'est décrit comme étant le chemin, la vérité, la vie, et il s'est décrit comme étant la lumière du monde. Il est celui qui est venu pour nous éclairer, pour nous montrer justement que dans notre vie, tout n'était pas si formidable que cela, et que si nous ne faisions rien, nous partions en enfer. Mais nous avons besoin d'être rachetés. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin de changer de direction. C'est ce que la Bible appelle la conversion. La conversion, c'est un demi-tour, c'est un changement de direction. Et nous avons besoin de cela. De comprendre que la route que nous menons, elle n'est pas si excellente que cela. Et s'il était si formidable, on le saurait depuis longtemps. Mais on se rend bien compte des obstacles, des difficultés et de tous les malheurs qui sont les nôtres. Alors comment faire ? Dieu dit, crois en ma parole. Crois simplement en ma parole, elle est vivante et elle va produire un fruit excellent. Mais Seigneur, tu es où ? Comment te chercher ? Comment te suivre ? Je suis la lumière du monde. Je vais éclairer ta vie. Je vais te montrer où je suis. Ce n'est pas moi la lumière du monde. C'est Jésus la lumière du monde. C'est lui qui montre. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui indique. C'est lui qui nous montre la bonne direction et l'engagement que nous devons prendre. Elle éclaire notre chemin dans ce monde ténébreux dans lequel nous sommes. Et comme le dit la Bible, nous ne tâtonnons plus maintenant, puisqu'il devient la réponse à toutes nos questions. Et je termine avec cette dernière image. Cette parole est une semence. Et une semence incorruptible. Luc, lui, le dit dans son chapitre 8 au verset 11, « La semence, c'est la parole de Dieu. » Et le dernier verset de Pierre nous dit ceci, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous allez me dire, mais ça ne veut rien me dire pour moi. Je suis vivant, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre autre chose ? Oui, tu es peut-être vivant, mais est-ce que intérieurement tu n'es pas mort ? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu et il m'a dit, mais il faut absolument qu'on se rende compte parce que ma situation est catastrophique. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous me voyez tel que je suis ? Et vous allez dire que je suis vivant. Il dit, mais en fait, je suis mort. Et je voulais comprendre ce qu'il était en train de me dire, et il me l'a expliqué après, et c'était la même pensée que nous avions. Il me disait qu'en fait, intérieurement, il était détruit. Il en avait marre de cette vie. Plus rien ne pouvait aller pour lui. Et son âme était complètement desséchée. Il n'avait plus d'espérance, plus d'avenir, plus d'espoir. Pour lui, tout était cassé, brisé. Il passait sur tous les problèmes sentimentaux qu'il avait, tous les problèmes professionnels, financiers, etc. Il dit, on a l'impression que je suis vivant, mais en fait, je suis mort. Il n'y a plus rien en moi, dans ma vie, qui m'apporte joie, paix, bonheur. Il y avait quelque chose de terrible. La Bible nous dit ici qu'elle est une semence. Ça veut dire quoi? Quand vous mettez une semence en terre, qu'est-ce qui se passe? La vie produit quelque chose de formidable. Ça va commencer à germer. J'ai pris un noyau d'avocat la dernière fois, je l'ai mis dans du coton, j'ai mis un peu d'eau, et au bout de quelques jours, enfin j'ai dit à ma femme de le faire, et au bout de, mais c'est moi qui rajoute l'eau après, hein. Et au bout de quelques jours, on a commencé à voir un germe, quelque chose est en train de se produire, la vie, quand on regarde, on a l'impression que c'est mort au départ, mais la vie est là, la vie est contenue, et quand vous mettez suffisamment de ce qu'il faut pour que la vie soit communiquée, l'eau de la parole, par exemple, alors ça commence à germer. Je ne sais pas comment vous pouvez définir votre vie cet après-midi. Si vous pensez que votre vie est formidable, merveilleuse, et que vous n'avez rien y revoir, chacun pense ce qu'il veut, et il voit ce qu'il pense personnellement, et je ne vous contredirai pas. Mais quelque part, quand nous réfléchissons bien un petit peu, que nous revenons en arrière, on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas certaines choses dans notre vie qui pourraient changer afin que nous soyons un peu plus heureux, un peu plus en harmonie, un peu plus en paix, avec un peu plus de joie, avec un peu plus de conviction, de certitude, d'espérance? Si la mort ne pouvait ne plus me faire peur, si ce qui va se passer demain pouvait ne plus créer des craintes dans mon cœur, mais que je pouvais avoir pleinement des assurances, combien je vivrais mieux, parce que la dépression et l'angoisse ne seraient plus là. Et cela, c'est ce que Jésus est capable de faire dans votre vie. Il l'a fait dans bien des vies des hommes et des femmes, et il se présente comme une semence qui apporte la vie. Et cette parole, ce livre que je vous invite vraiment à lire, et comme je le dis très souvent, si vous n'en avez pas de Bible, eh bien avant de quitter ce lieu, on vous en donnera une. On pourrait les vendre, d'ailleurs on en vend, mais on ne veut pas que ça soit assimilé à quelque commerce que ce soit. Et moi, je me fais un honneur et un plaisir de vous l'offrir. Pourquoi? Parce que ce livre, ce n'est pas un livre magique, mais c'est un livre rempli de puissance, parce que c'est le livre de Dieu. Et c'est un livre qui, quand on commence à lire le Nouveau Testament, par exemple, il y a des choses extraordinaires qui correspondent à notre vie, à ce dont nous avons besoin, et cette parole que nous recevons va reproduire en nous la vie véritable que nous avons besoin les uns et les autres, au point de nous changer complètement et au point où l'apôtre Paul va dire, mais maintenant vous êtes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création, les choses anciennes peuvent passer parce que maintenant toutes choses dans votre vie peuvent devenir nouvelles. Alléluia. Démarrer une nouvelle vie, commencer quelque chose de nouveau, c'est possible. Grâce à cette semence, grâce à cette parole et à ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Amen. Je vais vous inviter pendant quelques instants à fermer vos yeux, on va courber nos fronts et on va prier le Seigneur et lui demander sa grâce sur ces instants. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre grâce. Tu es merveilleux. Et nous essayons chaque jour de comprendre toujours un peu mieux ta parole. Et Seigneur, je sais que tu es celui qui communique la vie, je te demande de la communiquer cet après-midi. Tu es celui qui parle, tu es celui qui agit, tu es celui qui se manifeste, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu es celui qui est vivant et qui prend soin de nos vies. Et tu connais ceux et celles au milieu de nous cet après-midi qui ont besoin de recevoir quelque chose de précis, quelque chose de particulier de ta part. Je te demande ton intervention, je te demande ta grâce. Et je te demande vraiment de bénir ces amis qui sont là cet après-midi, qui ont entendu ta parole. Agis dans les cœurs. Produis le fruit, Seigneur. Et là, c'est l'œuvre de ton esprit qui se manifeste maintenant. Nous nous attendons à toi, parce que tu es puissant, parce que tu es vivant. À toi et à toi seul, soit toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être on pourrait terminer par un chant, hein, avant de nous quitter. J'aimerais vous réinviter. Nous allons continuer cette série d'études sur les Écritures. Elle a pris fin cet après-midi, mais j'aimerais vous inviter dès mardi soir, où nous allons aborder le thème de la Trinité. Un Dieu en trois personnes. Ça nous paraît un peu compliqué, d'approche en tout cas, mais on va voir que les choses sont assez simples quand même. On en parlera ce mardi, on en parlera également, on fera la suite dimanche prochain. Et puis dans 15 jours, vous verrez les annonces tout à l'heure sur le vidéo, dans une quinzaine de jours, on consacrera tout un dimanche sur ce dont la Bible appelle la guérison divine. Est-ce que Dieu est capable de faire des miracles aujourd'hui encore? Est-ce qu'il guérit? Est-ce qu'il guérit pas? S'il guérit, pourquoi? Comment il guérit? De quelle manière il s'y prend? Bref, un certain nombre de choses dont la Bible nous enseigne également. Et puis, vous avez tout un programme également sur les feuillets violets. Le journal d'information est arrivé. Vous pourrez donc le prendre. Il est à votre disposition. Voilà, je vais laisser la place à Freddy pour...